Les podcasts du Collège de France, littérature.
Bien, c'est notre dernier cours pour cette année et je voudrais commencer par quelques mots à ce sujet, plutôt au début du cours qu'à la fin du cours. D'abord pour vous remercier de l'avoir suivi, nombreux, assidus et attentifs. Pour moi, c'était une expérience nouvelle et une découverte. Et il est vrai que j'étais un petit peu surpris au départ par la demande très intense de littérature qui était insoupçonnée de moi. Dans la leçon inaugurale, j'avais manifesté un petit peu d'inquiétude pour l'état de la littérature en ce début de siècle et vous m'avez montré que j'avais tort, que ce diagnostic était exagéré. Vous en souvenez, la semaine dernière, Proust comparait, nous comparions avec Proust un cours froid et subventionné au Collège de France avec une sublime grand-messe dans la cathédrale de Chartres, menacée, elle, de désaffectation par l'État. Mais votre silence, votre dévotion, votre recueillement ont été quasi religieux, m'a-t-il semblé. Pour moi, cette première année, il s'agissait d'essuyer les plâtres, comme on dit. Et je crois qu'un jour, ou vers le milieu du cours, je vous ai confié que c'était un petit peu un apprentissage de la liberté. Après une bonne trentaine d'années d'enseignement dans diverses universités. C'est très, très différent d'un cours universitaire. D'abord parce qu'il n'y a pas d'examen à la fin, et donc il n'y a pas la nécessité de couvrir un programme, de commencer par une bibliographie, de faire un état de la question. Et je crois que il me semble que je vous ai dit un jour que j'avais prévu un certain nombre de leçons en quelque sorte introductives, comme obligées, et que je les ai peu à peu retardées, et que finalement je les ai sacrifiées. Me rendre compte qu'elle n'était pas utile ici et qu'il était désormais trop tard pour les livrer. Vous avez aussi pu constater que j'ai fait ce cours de semaine en semaine, au fur et à mesure que je me replongeais dans cette mémoire de la littérature qui est la recherche du temps perdu, en suivant des fils parfois un peu capricieux. Je crois que le roman est un grand espace de mémoire. J'ai beaucoup évoqué cette dimension spatiale et du roman et de la mémoire. Et je crois aussi que la recherche littéraire a cette dimension spatiale. Vous vous souvenez, je crois qu'un jour j'évoquais avec Weinrich, qui avait été professeur ici, cette odologie, cette discipline qu'il appelait de ses voeux, une odologie littéraire, c'est-à-dire prendre la mesure de cet espace de la littérature comme espace de promenade, d'exploration. Je l'ai dit aussi à plusieurs reprises, je crois que le chercheur est un chasseur et qu'il s'agit de faire de la littérature, en l'occurrence de la recherche du temps perdu, son terrain de chasse. Deux petites questions ou bévues ou malentendues. La première, vers le début, quelqu'un m'a demandé de donner les références. Lorsque j'évoquais Proust, j'ai essayé de le faire un petit peu et puis je n'ai pas réussi à le faire, à m'interrompre pour les donner. Je pense que de ce point de vue, je reste un conférencier traditionnel, plus traditionnel que mes invités qui, eux, se sont mis à utiliser des prospectus ou des ou des PowerPoint, comme on appelle ça maintenant, et comme cela se répand. Pour ma part, je crois que je reste donc plus un tenant de la tradition. Et l'autre question, c'est celle de l'échange, du dialogue, de la discussion. Je sais qu'il y a eu un petit peu de frustration qui m'a été exprimée de diverses manières, soit à la fin du cours, soit dans des mots, soit dans des courriers électroniques, notamment frustration relative à l'absence de dialogue, de discussion, de questions, par exemple après les séances de séminaire. C'est vrai que j'avais annoncé au début qu'il y aurait des discussions, mais là aussi je ne savais pas au début combien vous seriez. Et le séminaire a été plutôt une suite de conférences invitées qui, à mon sens, ont été idéalement complémentaires du cours, puisqu'elles ont traité un certain nombre de questions particulières, propres, comme des allusions, le pastiche, l'intertexte, et donc elles ont été tout à fait complémentaires. À la Sorbonne, je faisais d'habitude une ou deux séances de questions vers le milieu, vers la fin du cours, en demandant qu'on dépose des papiers sur le bureau, et il est possible que je recommence cette manière ici l'année prochaine. J'ai répondu à quelques lettres qui m'ont été envoyées durant ce cours, mais on me l'a dit par le vieux téléphone arabe qui avait aussi sur des sites internet au moins deux auditeurs très scrupuleux qui donnaient un compte-rendu, un résumé du cours et qui avaient dans ces sites une sorte de débat. Donc il y a là aussi on externalise, hein, la discussion est externalisée. C'est là que se passent les choses aujourd'hui. Je ne suis pas allé consulter ces sites, j'y ai résisté parce que j'avais... je sais que l'expression est très libre sur les sites internet et je craignais d'être désorienté par ce que j'y trouverais. Je préférais mener jusqu'au bout moi-même le cours de cette recherche, mais j'irai les consulter une fois que le cours sera terminé, donc dans les prochains jours ou dans les prochaines semaines, mais je préférais mener mon chemin indépendamment de ces réactions et de ces commentaires. Mais enfin, je remercie bien évidemment ceux qui les ont tenus. Et il y a un contact qui a eu lieu. Ne vous en faites pas. Nous sommes ici dans un amphithéâtre où, à mon sens, le contact est excellent entre l'orateur et les auditeurs. Alors, c'est le dernier cours. C'est toujours un peu le temps des regrets, des prétéritions. On parle de ce qu'on n'a pas fait et de ce qu'on ne fera pas. J'évite en général la prétérition. C'est un peu du temps perdu et le temps nous est compté. Mais en l'occurrence, je serai obligé de passer quand même un peu par la prétérition parce qu'il me semble que ce cours pourrait continuer assez longtemps. J'ai le sentiment, sur beaucoup de points, de n'avoir fait que l'effleurer. Et donc, ce que je voudrais faire aujourd'hui, c'est entrouvrir quelques dossiers, évoquer quelques points que j'aurais aimé pouvoir, bien entendu, traiter plus longuement, quatre ou cinq points qui auraient mérité chacun un cours entier, certainement. Nous terminions la semaine passée à propos de la mémoire et de l'oubli de la littérature dans la recherche du temps perdu, sur ce XVIIe siècle, ni scolaire, ni nationaliste, ni puriste, qui remontait dans la recherche du temps perdu. En somme, un classicisme auquel Proust tient, mais un autre classicisme que celui de Brunetière ou de Lançon, que celui de Maurras ou de l'Action française et que celui de Gide ou de la NRF, un autre classicisme. J'évoquais ce titre de Jacques Rivière, d'un article important, une grande reconnaissance de Proust en 1920, « Proust et la tradition classique ». Quelle autre tradition, en l'occurrence, quelle apologie du classique peut-on trouver chez Proust, mais d'un classique qui, comme on l'a vu la semaine passée, manifestement ne répond pas aux critères habituels du classicisme, un classicisme cette fois-ci impur, complexe, profond, organique, vital, intégral, désordonné, ouvert, en expansion, un classicisme aussi qui est international, cosmopolite, qui comprend le roman russe et le roman anglais, et un classicisme qui est indiscipliné, très évidemment. Un classicisme qui, pourrait-on dire, inclut le romantisme, inclut le XIXe siècle. Et il est bien clair que Proust, dans beaucoup de ses textes qui accompagnent la recherche, tente de déconstruire cette opposition du classicisme et du romantisme, suivant le titre de l'ouvrage bien connu d'Émile Deschanel, que je crois que je le citais dans la leçon inaugurale, hein, c'est le romantisme des classiques. Il y a un romantisme des classiques, de même qu'il y a un classicisme des romantiques aux yeux de Proust. Hein. L'opposition est donc défaite, et dans de nombreux textes, Proust plaide pour une identification entre Baudelaire et Racine. Racine n'est jamais aussi baudelairien que lorsqu'il fait parler un certain nombre de ses héroïnes, et Baudelaire n'est jamais aussi racinien que dans Les femmes damnées, avance Proust. Baudelaire et Racine sont confondus dans un classicisme qui est donc très large, étendu au romantisme. Proust réinvente un XVIIe siècle, son XVIIe siècle, sa tradition classique, sa propre généalogie de classique, pourrait-on dire, ses précurseurs, en quelque sorte. Il y a beaucoup sur cette complexité ou complication, ce processus qui fait que on lit d'une certaine façon l'histoire à rebours. Le passage le plus célèbre, pas encore évoqué, qu'on doit quand même évoquer aujourd'hui, c'est celui où le narrateur évoque le côté Dostoïevski de la littérature classique. Nous évoquions la semaine passée La princesse de Clèves, pour laquelle Proust n'a pas véritablement d'affinité. En revanche, ce qui l'intéresse, c'est ce côté Dostoïevski de la littérature. Qu'est-ce que c'est qu'une tradition classique où Dostoïevski a sa place ? C'est une tradition, ai-je envie de dire, comme souvent ici, une tradition plutôt de mémoire que d'histoire. Cela veut dire, avec un parti pris anti-progressiste, anti-linéaire, anti-logique. Proust insiste beaucoup sur ce point et son narrateur voudrait que, c'est un passage bien connu de La Prisonnière, où le narrateur fait une leçon de littérature à Albertine, le narrateur insiste pour que la littérature représente le monde, dit-il, du point de vue des effets, non des causes, c'est-à-dire de l'égarement, de la désorientation, du manque de repères. Non, donc, suivant ce critère de la littérature classique, exposition, nœud, péripétie, dénouement, grand ordre de la tragédie, mais, nous dit-il, comme Madame de Sévigné, comme Dostoïevski, ou encore comme Elstir, le peintre imaginaire de la recherche, car tous trois nous donnent à voir les choses dans l'ordre de nos perceptions, non pas comme on sait ou comme on croit savoir qu'elles sont. Je cite ce passage bien connu, « Il est arrivé que Madame de Sévigné, comme Elstir, comme Dostoïevski, au lieu de présenter les choses dans l'ordre logique, c'est-à-dire en commençant par la cause, nous montre d'abord l'effet, l'illusion qui nous frappe. C'est ainsi que Dostoïevski présente ses personnages. Leurs actions nous apparaissent aussi trompeuses que ces effets d'Elstir où la mer a l'air d'être dans le ciel. Nous sommes tout étonnés, après, d'apprendre que cet homme sournois est au fond excellent, ou le contraire. Le narrateur de la recherche revient souvent à cette association qui lui plaît de manière évidente, parce qu'elle est hétérogène. Dostoïevski, Sévigné, Elstir, disparate, capricieuse, mais elle s'impose à force d'être répétée. Association entre une épistolière du XVIIe siècle, français, un romancier du XIXe siècle russe et un peintre d'un XXe siècle imaginaire, Elstir. Les dates, les langues, les genres, les médias sont bousculés. Et pourtant, il y a ce qu'on pourrait appeler, une fois de plus, un air de famille entre ces trois artistes. Autre passage, cette fois-ci dans Un nombre des jeunes filles d'ampleur, Madame de Sévigné est une grande artiste de la même famille qu'un peintre que j'allais rencontrer, Elstir. Je me rendis compte, à Balbec, que c'est de la même façon que lui qu'elle nous présente les choses dans l'ordre de nos perceptions au lieu de les expliquer d'abord par leur cause. Je fus ravi par ce que j'eusse appelé un peu plus tard « Ne peint-elle pas les paysages de la même façon que lui les caractères ?» le côté Dostoïevski des lettres de Madame de Sévigné. Ce côté Dostoïevski des lettres de Madame de Sévigné, c'est bien une autre perspective sur le monde, régressive, à rebours. C'est bien le témoignage de cette méfiance à l'égard de l'explication par les causes, de la linéarité, du déterminisme, tout cela qui revient très souvent dans la recherche du temps perdu. Et c'est encore sur ce modèle qu'est définie l'ambition du roman de Proust dans le temps retrouvé. À supposer que la guerre soit scientifique, encore faudrait-il la peindre comme Elstir peignait la mer par l'autre sens. Par l'autre sens. Cette idée d'une alternative dans une, et du rattachement à une autre tradition. Et partir des illusions, des croyances qu'on rectifie peu à peu, comme Dostoïevski raconterait une vie. Il y a donc une démarche littéraire alternative, anti-historique, anti-linéaire, anti-logique, qui est ainsi proposée, qui donne sa place à l'erreur, à l'illusion, qui le préfère a priori au savoir. Proust insiste donc beaucoup sur cette dimension anachronique ou hétérochronique de cette démarche de mémoire littéraire. On voudrait dire qu'il y a ici une histoire des écrivains opposée à l'histoire des professeurs. L'histoire des professeurs, c'est celle qui établit des chronologies, qui part des causes et qui procède de manière linéaire. Et puis, il y a une histoire des écrivains qui procède, et j'ai envie de dire, à rebours. C'est une histoire des effets, non pas une histoire des causes. C'est une histoire qui relie autrement le passé à partir du présent. L'œuvre nouvelle, l'œuvre vraiment nouvelle, réordonne l'ensemble de la littérature. Le paysage est intégralement modifié à partir d'un nouveau point de vue. C'est une idée qu'on trouve souvent dans la recherche du temps perdu. Ainsi, après Dostoïevski, on relit autrement Madame de Sévigné. Et on pourrait dire aussi qu'après Proust, on relit autrement et Racine et Baudelaire et Sévigné et Saint-Simon. Il y a là deux histoires concurrentes, rivales, une histoire officielle et une histoire vivante, celle de la littérature qui porte la littérature. Et c'est peut-être la seconde qui est la plus active, la plus décisive dans le cours de l'histoire. Mais vous voyez combien cette seconde histoire, celle que j'appelle plutôt la mémoire, est toujours décrite comme composite. Sévigné, Dostoïevski, Elstir. Composite, enchevêtré, compliqué, contradictoire. On a évoqué à une ou deux reprises ici, je crois que je l'ai évoqué moi-même à une occasion, et un conférencier l'a évoqué aussi, cette notion de réminiscence anticipée, à laquelle Proust accorde beaucoup d'importance. Il y a là à l'œuvre cette notion dans ce rapport entre Sévigné et Dostoïevski, mélangeant les siècles, les langues et les genres. Il y a ce que Proust appelle encore, ou ce qu'on peut appeler avec Proust, en pensant à un écrivain comme Borges, l'influence à rebours, le plagiat par anticipation. C'est ce que, dans plusieurs de ses contes les plus célèbres, Borges met à l'œuvre, comme dans son Pierre Ménard, auteur du Quichotte. C'est ce que Proust est en train de décrire ici. Et cette idée de plagiat par anticipation ou d'influence à rebours, elle est abordée justement par le narrateur de La recherche du temps perdu dans Sodome et Gomorre, juste au moment où il a fait la satire du progressisme de la jeune marquise de Cambremer, évoqué à plusieurs reprises ici. Et le passage se poursuit comme ceci. Comme à la bourse, quand un mouvement de hausse se produit, tout un compartiment de valeurs en profite. Cette image de la bourse littéraire opposée peut-être justement à l'histoire qui est celle des professeurs. Quand un mouvement de hausse se produit, tout un compartiment de valeurs en profite, un certain nombre d'auteurs dédaignés bénéficiaient de la réaction, soit parce qu'ils ne méritaient pas ce dédain, soit simplement, ce qui permettait de dire une nouveauté en les prônant, parce qu'ils l'avaient encouru. Et on allait même chercher dans un passé isolé quelques talents indépendants de réputation, sur la réputation de qui ne semblait pas devoir influer le mouvement actuel, mais dont un des maîtres nouveaux passait pour citer le nom avec faveur. D'autres fois parce que certains artistes d'une autre époque ont, dans un simple morceau, réalisé quelque chose qui ressemble à ce que le maître, peu à peu, s'est rendu compte que lui-même avait voulu faire. Alors il voit en cet ancien comme un précurseur. Il aime chez lui, sous une toute autre forme, un effort momentanément, partiellement fraternel. Il y a des morceaux de Turner dans l'œuvre de Poussin, une phrase de Flaubert dans Montesquieu. Bon, j'ai déjà cité cette phrase. La même idée, on la retrouve dans l'article de Proust sur le style de Flaubert. Flaubert était ravi quand il retrouvait dans les écrivains du passé une anticipation de Flaubert. Dans Montesquieu, par exemple, les vices d'Alexandre étaient extrêmes. Il était terrible dans la colère. Elle le rendait cruel. Phrase de Flaubert dans Montesquieu, réminiscence anticipée, reconnaissance de ce que Proust appelle ici un précurseur. Il y a donc une conception linéaire de l'histoire et puis une mémoire qui fonctionne à rebours. Le narrateur voit les choses de cette manière, la redistribution des valeurs est toujours possible, c'est-à-dire la relecture de l'ancien à travers le nouveau. On s'en souvient, Poussin réévalué parce que Degas l'admire, ou Chopin quand Debussy le déclare qu'il est son musicien préféré. C'est le nouveau qui influence l'ancien. Il n'y a en somme plus d'acception de cette linéarité de l'histoire dans la mémoire proustienne de la littérature. Bien entendu, il y a peut-être une limite à cette mémoire de la littérature, puisque les réminiscences anticipées, elles sont tout à fait idiosyncrasiques, elles sont l'objet d'un caprice peut-être imaginaire, ce sont comme des rumeurs, si j'entends du Flaubert dans Montesquieu, n'est-ce pas de l'ordre de l'impression imaginaire. Certains critiques ont tenté de distinguer, par exemple Michael Riefater, ce qu'il appelait intertextualité obligatoire et intertextualité aléatoire. L'intertextualité obligatoire, c'est celle qui a été voulue par l'écrivain, et je peux reconnaître légitimement une allusion. L'intertextualité aléatoire, eh bien, c'est mon propre imaginaire que je projette sur la littérature du passé, et je reconnais des échos que je suis peut-être le seul à reconnaître dans cette littérature. Et à l'opposé de Riefater, Roland Barthes n'hésitait pas à faire dériver la lecture vers cette subjectivité que Proust a l'air lui-même de recommander. Barthes entend dans un texte cité par Stendhal du Proust. C'est du Proust. Texte qui ramène à sa mémoire, fait revivre un passage bien particulier, celui des deux courrières du Grand Hôtel de Balbec. Et Barthes écrit, lisant un texte rapporté par Stendhal, mais qui n'est pas de lui, j'y retrouve Proust, par un détail minuscule. Je savoure le renversement des origines, la désinvolture qui fait venir le texte antérieur du texte ultérieur. Ce mouvement à rebours, cette réminiscence anticipée. Je comprends que l'œuvre de Proust est pour moi l'œuvre de référence, et il continue en disant « Ce n'est pas une autorité, simplement un souvenir circulaire. » Mais, bien entendu, ce souvenir circulaire peut être nié par un autre lecteur. Ici, je voudrais évoquer justement quelques-unes de ces prétéritions dans lesquelles j'aimerais aller si j'avais le temps, et j'en évoquerai deux ou trois. La première serait d'explorer cette mémoire littéraire que je viens d'écrire, cette mémoire complexe, cette mémoire composite, cette mémoire qui peut procéder à rebours, à laquelle rien n'interdit de procéder à rebours. Je voudrais pouvoir l'évoquer et prolonger l'analyse dans son aspect de rumeur, de bruit, d'écho. Comme mémoire, la littérature, on le voit, c'est une sorte de bruit de fond, un bruit blanc, ce qu'on appelle un bruit blanc. Qu'est-ce que c'est qu'un bruit blanc ? Il y a un roman américain de l'auteur Don DeLillo qui s'appelle « Bruit blanc »,« White Noise », qui porte sur la saturation moderne, par la saturation sonore moderne à laquelle nous sommes exposés. Le bruit blanc, comme la lumière blanche, c'est ce qui est obtenu en combinant des sons de toutes les fréquences. On peut en avoir une idée assez simple, et je crois que c'est un petit peu comme ça que fonctionne un grand roman complexe comme La recherche du temps perdu. Quand on est dans un café, que deux ou trois personnes parlent en même temps, notre oreille, notre cerveau sont en mesure de démêler, d'identifier une des deux ou trois voix qui sont superposées. Mais si 100 personnes ou 1000 personnes parlent à la fois, notre oreille et notre cerveau ne sont plus en mesure de démêler les voix, d'écouter et de comprendre. Il n'y a plus moyen de distinguer une voix parmi mille dans une cacophonie. Voici l'image que j'aimerais poursuivre, celle de cette mémoire de la littérature dans un roman comme La recherche du temps perdu, comme superposition de voix, comme cacophonie, tapage, vacarme, charivari, dans lesquels, à la limite, on ne peut plus distinguer une voix d'une autre. C'est, ai-je envie de dire, toute la littérature qui bruit dans La recherche du temps perdu, et cette littérature, souvent, elle n'est plus reconnaissable. Je voudrais donner un exemple qui m'a été apporté depuis la semaine passée, justement. J'évoquais la clausule, la semaine passée, de cet article de Proust de 1903, « La mort des cathédrales ». Cette phrase, « Les morts ne gouvernent plus les vivants, et les vivants, oublieux, cessent de remplir les vœux des morts ». Et j'y trouvais Auguste Comte, une phrase que j'avais justement lue le matin même, par hasard, chez Barrès, « Les vivants sont gouvernés par les morts ». Par hasard, je crois que c'est important. Mais je citais aussi, dans le même article, cet adjectif intégral qui réapparaissait plusieurs fois. Proust évoquait ce qu'il appelait la vie intégrale des cathédrales qui nous étaient conservées, et il évoquait la grand-messe comme résurrection intégrale. Et le lendemain ou le surlendemain, notre conférencier de la semaine passée, Hiroya Sakamoto, m'a renvoyé à la préface de Michelet, de l'Histoire de France de 1869, où on trouvait précisément l'expression de résurrection de la vie intégrale, les mots même auxquels je m'étais arrêté. Ce qui est le plus curieux, c'est que c'est un texte dont je comptais parler aujourd'hui et qui me donnera tout à l'heure ma conclusion. Mais, en effet, reprenant cette préface de 1869 de l'Histoire de France de Michelet, Michelet compare sa propre entreprise de résurrection du passé à l'œuvre du peintre Géricault. Géricault qui, dans le Louvre d'avant 1815, le Louvre de Vivant Denon, qui réunissait toute la peinture européenne, prétendait s'approprier toute cette peinture. Et Michelet compare sa situation à celle de Géricault. Plus compliquée encore que l'entreprise de Géricault, plus effrayant était mon problème historique posé comme résurrection de la vie intégrale. Non pas dans ses surfaces, mais dans ses organismes intérieurs et profonds. Passage éminemment proustien, pourrait-on dire, résurrection, réminiscence anticipée de Proust, que cette opposition de la surface et de la profondeur, qui serait peut-être une autre des prétéritions que je pourrais faire, puisque je n'ai pas beaucoup évoqué cette façon d'épaissir les choses, de donner du volume, de, comme dit ici Michelet, aller vers ses organismes intérieurs et profonds. Résurrection de la vie intégrale chez Michelet, voilà l'expression qui, à côté de celle de Comte, figurait dans ces quelques pages de Proust. Vous le voyez, parfois les éditeurs peuvent nous donner des références, des sources dans des notes. En l'occurrence, dans ces deux cas, ils ne nous les donnent pas. Mais cela ne détermine que de manière très ponctuelle ce qui se passe dans cette mémoire de la littérature, puisque c'est l'idée que je voudrais essayer de donner. Elle est beaucoup plus brumeuse, fluide. C'est comme une mer ou un bain littéraire. La littérature baigne dans la littérature. Vous me direz que j'utilise sans doute trop de métaphores pour essayer de cerner cette mémoire par opposition à une histoire de la littérature. Je parle de vacarme, de brume, de mer. Mais vous savez l'importance de la rumeur dans la recherche du temps perdu. La rumeur, tout fonctionne par la rumeur, par le bruit, et cette dimension de rumeur est inséparable du côté dostoïevskien de la recherche du temps perdu comme une recherche d'une orientation dans la rumeur. Tout part toujours de la rumeur dans la recherche du temps perdu. C'est le roman de la rumeur, du bruit qui court, de la nouvelle incontrôlée qui se répand dans la conversation. C'est un roman du bavardage, du commérage, du cancan, du potin, et notamment du potin littéraire. La littérature est plongée dans cette mer de rumeurs et le narrateur lui-même en fait un principe. Il dit, dans le côté de Guermantes, « Il faut se rappeler que l'opinion que nous avons les uns des autres, les rapports d'amitié, de famille, n'ont rien de fixe qu'en apparence, mais sont aussi éternellement mobiles que la mer. » De là, tant de bruit de divorce entre des époux qui semblaient si parfaitement unis et qui, bientôt après, parlent tendrement l'un de l'autre, etc. Tout est construit sur la rumeur qu'il s'agit de déchiffrer. La rumeur appartient à l'habilité des choses de ce monde et elle en est le meilleur symptôme. Le monde de la recherche du temps perdu et notamment son monde littéraire, c'est un monde qui bruit de rumeurs, d'ouïes dire, entre lesquelles le narrateur cherche à s'orienter. J'utilise sans doute trop de métaphores, mais laissez-moi en ajouter encore une. Il me semble que on écoute la littérature dans la recherche du temps perdu un peu comme on porte l'oreille à un coquillage et on est envahi par le bruit de la mer. La rumeur des vagues, c'est la mer qui est, selon un vieux mot français, rumoreuse. C'est le flot rumoreux de la mer. Proust évoque un moment dans Sodome et Gomorre, l'effet des médicaments, des somnifères qui font perdre la mémoire, qui provoquent l'oubli. On oublie avec les somnifères, mais justement ce qu'on n'oublie pas, c'est un vers de Baudelaire qu'on voudrait oublier. Ta mémoire, pareille aux fables incertaines, fatigue le lecteur ainsi qu'un tympanon. C'est ce tympanon qui bruit dans l'oreille, qui écorche peut-être l'oreille, c'est ce bruit dont on ne peut pas se séparer. Il me semble qu'il faut donc distinguer de l'attention positiviste, atomiste, philologique, aux sources et aux références, cette écoute que je qualifie de rumoreuse, comme on écoute le bruit de la mer dans un coquillage, prenant moins d'intérêt à tout ce qui est philologique qu'à ses couches et à ses ondes du texte. Et là aussi, il y aurait une image qu'il aurait fallu explorer, une de ces images de la mémoire. On a, à différentes reprises, parlé de la mémoire comme forêt. La mémoire, on a trouvé ces images chez Proust de la désorientation dans la forêt, et puis soudain on trouvait ces panneaux indicateurs qui nous montraient qu'on était dans la bonne direction. Mais il y a une autre image, j'ai envie de dire concurrente de celle de la forêt, et à peu près équivalente à celle de la forêt, c'est celle de l'océan, la forêt, l'océan. Très souvent, ils jouent l'un avec l'autre, hein, la forêt et l'océan. Au début du Père Goriot, Balzac compare Paris à un océan et cette image de l'océan, elle vient elle-même de Fenimore Cooper et du dernier des Mohicans pour désigner la forêt. Balzac écrit au début du Père Goriot « Paris est un véritable océan. Jetez-y la sonde, vous n'en connaîtrez jamais la profondeur. Parcourez-le, décrivez-le. Quelques soins que vous mettiez à le parcourir, à le décrire, quelque nombreux et intéressés que soient les explorateurs de cette mer, il s'y rencontrera toujours un lieu vierge, un antre inconnu, des fleurs, des perles, des monstres, quelque chose d'inouï, oublié par les plongeurs littéraires. Les plongeurs littéraires dans l'océan de Paris. Vous voyez qu'il y a là ce fil entre forêt et océan. Et je repensais, avant de venir au poème de Baudelaire, Obsession, où on retrouve cette mer rumoreuse qui est aussi la forêt de la mémoire. Grand bois, premier quatrain de ce sonnet, grand bois, vous m'effrayez comme des cathédrales. Revoici cette cathédrale. Vous hurlez comme l'orgue est dans nos cœurs maudits, chambre d'éternel deuil où vibrent de vieux râles, répondent les échos de vos De Profundis. Je te hais, océan, tes bonds et tes tumultes, mon esprit les retrouve en lui, ce rire amer de l'homme vaincu, plein de sanglots et d'insultes. Je l'entends dans le rire énorme de la mer. Le rire énorme de la mer, c'est un peu ce bruit du tympanon dont le narrateur n'arrive pas à se séparer. Il y aurait là tout un fil à tirer entre l'océan et la forêt de la mémoire. Et pour vous montrer que je ne divague pas sur cette mer du souvenir, le voici chez Proust. C'est à Balbec dans Les Jeunes Filles. « Comme ma fenêtre donnée, au lieu que ce fût sur une campagne ou sur une rue, sur les champs de la mer, que j'entendais pendant la nuit sa rumeur, à laquelle j'avais, avant de m'endormir, confié comme une barque mon sommeil, j'avais l'illusion que cette promiscuité avec les flots devait matériellement, à mon insu, faire pénétrer en moi la notion de leur charme, à la façon de ces leçons qu'on apprend en dormant. » Voilà un passage qui, précisément, rassemble beaucoup de choses que nous avons essayé de dire, et cette promiscuité des flots, cette rumeur de la mer, cette mer qui pénètre par les oreilles, comme ces leçons qu'on apprend en dormant. Et vous pouvez vous souvenir d'un passage que j'ai cité, je crois, dans le premier cours, où cet apprentissage par cœur est favorisé par le sommeil. C'était dans L'ombre des jeunes filles en fleurs, où le narrateur se comparait au collégien qui a relu à plusieurs reprises, avant de s'endormir, une leçon qu'il croyait ne pas savoir et qui la récite par cœur le lendemain matin. Je saute par-dessus quelques prétéritions et j'en arrive au passage que je voudrais traiter un peu plus longuement, en forme de conclusion et qui serait peut-être la dernière image de cette mémoire de la littérature qui est transportée à travers la recherche du temps perdu. Ça sera encore une métaphore. Et elle voudra traiter la littérature comme personne dans la recherche du temps perdu. Ce qui va nous ramener une dernière fois à Michelet, comme je l'annonçais. Ce sera le dernier point. La littérature comme mémoire, la mémoire de la littérature, c'est, ai-je envie de dire, la littérature comme, vue comme une personne. Il y a quelques jours, pour nous ramener à cette image de la personnification de la mémoire, il y a quelques jours, vendredi ou samedi, il y avait dans Le Monde un article de Pierre Nora, un entretien avec Pierre Nora, auteur des lieux de mémoire de la France, et l'un de ceux qui ont le plus réfléchi sur ce sujet de la mémoire et de la mémoire de la littérature et à qui je dois beaucoup en essayant de le traiter. Et il évoquait, à propos de débats actuels en France sur l'identité nationale, la manière dont cette identité nationale a été traditionnellement pensée, longtemps pensée, comme, disait-il, continuité exceptionnelle, dynastique, territoriale, historique. Mais, ajoutait-il, cette façon française de penser l'identité nationale, peut-être était-elle caduque. Et il renvoyait au grand texte de Renan, Qu'est-ce qu'une nation ? Fondant la nation sur le culte des ancêtres, la volonté de vivre ensemble, la conscience d'avoir fait de grandes choses ensemble et de vouloir en faire encore. Mais, ajoutait-il, pour moi, la nation, selon Renan, est morte. C'est-à-dire cette ancienne notion de l'identité nationale qui associait le passé et l'avenir dans un sentiment de continuité, de filiation et de projet. Ce lien, poursuivait-il, est rompu, nous faisant vivre dans un présent permanent. J'y vois, c'est Nora qui parle, l'explication de l'omniprésence du thème de la mémoire et de son corollaire, l'identité. On parle tant de l'identité et de la mémoire parce que ce lien dans la continuité qui définissait l'identité et la nation serait rompu. Bien, c'est un peu à cela que je voudrais nous ramener pour ce dernier moment du cours. Parce que dans cette conscience d'une continuité de l'identité nationale, au fondement de l'identité nationale, la littérature a été traditionnellement l'un des éléments les plus forts. La littérature française comme continuité exceptionnelle, liant passé et avenir dans un sentiment d'appartenance. Même ceux qui ont rompu avec cette tradition, par exemple un Breton dans le Manifeste du surréalisme, se cherchent des précurseurs, à la manière de Proust que j'évoquais il y a un moment, les cherchant chez Sévigné ou chez Dostoïevski. Même la Révolution se réclame d'une autre filiation. Et on peut se demander si, en littérature, comme le dit Pierre Nora pour l'identité, ce lien est aussi rompu, cette vocation de la littérature qui a toujours été de faire vivre la littérature et de transporter la littérature du passé dans le présent et dans l'avenir. C'est quelque chose dont le narrateur a pleinement conscience dans La recherche du temps perdu, qui écrit, par exemple, à propos de sa mémoire qui a changé du nom des Guermantes, « Notre mémoire et notre cœur ne sont pas assez grands pour pouvoir être fidèles. Nous n'avons pas assez de place dans notre pensée actuelle pour y garder les morts à côté des vivants. » Je crois que cette réflexion sur la littérature comme personne nous ramène évidemment à Michelet, puisque c'est bien Michelet que Nora a à l'esprit ici, Michelet qui a souvent défini la France comme personne dans justement de nombreuses de ses préfaces à son histoire de France, par exemple dans la préface de son introduction à l'histoire universelle, je cite, ce sont des passages bien connus, hein, l'Allemagne n'a pas de centre, l'Italie n'en a plus, la France en a une et identique depuis plusieurs siècles, elle doit être considérée comme une personne qui vit et se meut. Le signe est la garantie de l'organisme vivant, la puissance de l'assimilation se trouve ici au plus haut degré. Et puis il y a le passage très connu du tableau de la France, de Michelet, texte le plus connu de Michelet, Tableau de la France de 1833, texte que Proust aime en particulier puisqu'il y cherche à l'occasion la phrase qu'il préfère de toute la littérature française. « Il ne faut pas prendre, dit Michelet, la France pièce à pièce, il faut l'embrasser dans son ensemble. L'Angleterre est un empire, l'Allemagne un pays, une race, la France est une personne. La personnalité, l'unité, c'est par là que l'être se place haut dans l'échelle des êtres. » Thème donc très fort chez Michelet de la France, personne, et thème qui est identifié par beaucoup d'observateurs de la France, à, par exemple Curtius, que j'ai cité il y a un certain nombre de séances à propos de sa conception de l'histoire comme mémoire, pour Curtius ou pour Hofmannsthal, si on peut parler de la France comme personne, c'est parce qu'elle est représentée par sa littérature. Cette littérature continue, pleine du IXe siècle à ce jour, dit Curtius. Et on peut ici ajouter que la littérature est d'ailleurs omniprésente dans ce tableau de la France de Michelet, où il définit la France comme personne. La littérature comme personne, eh bien, avant de terminer avec Proust, je voudrais évoquer encore une fois Thibaudet, que j'ai évoqué à plusieurs reprises dans ce cours et qui m'occupe beaucoup l'esprit en ce moment, puisque plusieurs éditions de Thibaudet vont sortir prochainement. Dans un article de 1929, intitulé précisément « Sur la géographie littéraire », Thibaudet réagit à une déclaration de Gide. On a demandé à Gide, un journaliste allemand a demandé à Gide, qui séjournait à Berlin, quel écrivain français mettrait-il à côté de Goethe comme représentant de toute la littérature française. Entre parenthèses, le journaliste qui interrogeait Gide, c'était Walter Benjamin. Et Gide avait répondu Montaigne. C'était le moment où Gide préparait un texte sur Montaigne qui sera inclus plus tard dans le tableau de la littérature française. Montaigne serait l'égal de Goethe comme incarnation de toute la littérature. Et Thibaudet est choqué par cette comparaison. Et il dit ceci. « Il y a quelques semaines, un Allemand me posait une question analogue à celle qui fut posée à Gide. Il me demandait de lui indiquer le livre qui me semblait exprimer le plus complètement et le plus profondément le génie de la littérature française. Je lui répondis, « Prenez le petit Pascal de Cazin » avec les notes de Voltaire. C'est un joli bibelot de la librairie élégante du XVIIIe siècle, et ce dialogue Pascal-Voltaire, ce contraste, cette antithèse, vous donnera précisément la littérature française en son mouvement de dialogue vivant jamais terminé, de continuité qui change et de choses qui durent. Bon, c'est du Bergson. C'est la littérature comme élan vital, comme continuité qui change et chose qui dure. Mais, vous le voyez, Thibaudet refuse immédiatement d'identifier cette littérature à un seul et a besoin de se doubler, Pascal, trait d'union, Voltaire. Et puis, aussitôt qu'il l'a proféré, c'est insuffisant, parce que Pascal est inséparable du dialogue avec Montaigne. Et il continue en disant « J'appliquerai au terme Montaigne-Pascal-Voltaire la formule de Pascal sur le même homme qui dure, ajoutons, qui change et qui apprend continuellement. Et cette suite, elle ne serait pas plus toute la littérature française que Goethe n'est toute la littérature allemande, mais elle y tiendrait la place caractéristique de Goethe. » Enfin, ça ne lui suffit pas, il est obligé d'ajouter un quatrième. À la réflexion, j'ajoute un quatrième nom, un quatrième interlocuteur de ce dialogue central. Chateaubriand, Chateaubriand répond à Voltaire comme Voltaire à Pascal et Pascal à Montaigne. Et j'ai envie d'ajouter Proust. Et vous voyez que ce qui est dit ici, c'est que la littérature française, c'est, suivant Thibaudet, cette personne, Montaigne, trait d'union Pascal, trait d'union Voltaire, trait d'union Chateaubriand, trait d'union Proust, qui n'en fait qu'un. On se souvient du texte de Pascal, c'est celui de la préface du traité sur le vide. Toute la suite des hommes doit être considérée, disait Pascal, comme un même homme qui subsiste toujours et qui apprend continuellement. Eh bien, cette image de la littérature, et c'est un peu vers cela que je voudrais aller en conclusion, cette image de la littérature, on la retrouve chez Proust, d'une littérature qui est une personne. Dans les pages du Contre Sainte-Beuve sur Baudelaire, Proust suggère ainsi que toute la poésie est l'œuvre d'un seul poète. Parlant de la dernière photographie de Baudelaire par Nadar, puisque c'est ça qui est l'objet de sa réflexion, Proust écrit ceci. Il a surtout, sur ce dernier portrait, une ressemblance fantastique. Et vous voyez que je retrouve ce que j'évoquais au début, comme cet air de famille, cette réminiscence anticipée. Il a une ressemblance fantastique avec Hugo, Vigny et le comte de Lille, comme si tous les quatre n'étaient que des épreuves un peu différentes d'un même visage, du visage de ce grand poète qui, au fond, est un depuis le commencement du monde, dont la vie intermittente, mais aussi longue que celle de l'humanité, eut en ce siècle ces heures tourmentées et cruelles, dont les chants, contradictoires parfois, comme il est naturel dans une si grande œuvre, malgré tout, au sein d'une ténébreuse et profonde unité, se relient. Pour Proust, dans ce passage, il y a donc un poète éternel. Non plus la lignée Montaigne, Pascal, Voltaire, Chateaubriand, mais la lignée qui, depuis Homère, depuis le commencement du monde, dans cette vie intermittente, nous mène jusqu'à Hugo, Vigny, le comte de Lille, Baudelaire, dans ce que Proust appelle, avec encore une référence à Baudelaire, une ténébreuse et profonde unité, citation du poème Correspondance, qui nous renvoie à une autre image, celle de la symphonie, celle du concert, celle de la musique. Or, n'est-ce pas, suivant cette continuité, la suite des rois, qui est généralement conçue comme un seul homme dans toutes ces références, que ce soit chez Pascal ou chez Thibaudet, il y a l'idée de la dynastie, du roi qui dure et qui change, suivant une vision organique ou harmonique de la littérature comme royaume. L'historien Kantorowicz étudiait la formation du pouvoir souverain au Moyen-Âge et montrait que le corps du roi, le corps mystique du roi, ignorait sa propre mort et il y voyait l'image de la perpétuité de la perpétuité de la dynastie et de l'immortalité de la dignité royale. Vous voyez qu'on revoit encore une fois cette sorte d'ancien régime que j'ai souvent évoqué. Le roi ne meurt jamais, suivant l'adage monarchique « dignitas non moritur ». Je crois qu'on peut arriver en conclusion à cette image de la littérature. J'ai souvent employé cette expression de simultanéité du non contemporain. Je crois qu'il n'y a pas de meilleure image de cette continuité dynastique de la littérature comme mémoire, telle qu'elle a en tout cas survécu jusqu'à aujourd'hui. Là encore, si j'avais le temps, je crois qu'on pourrait montrer que chez tous les personnages les plus essentiels de la recherche du temps perdu, on trouverait ce sentiment de continuité dynastique. Bien entendu, chez Françoise, on l'a souvent remarqué, Françoise, comme dit le narrateur, ces Français de jadis dont Françoise était en réalité la contemporaine. On le trouverait à propos de Charlus, autre personnage central. Car je crois, dit Charlus, à la communion des saints et à leur velléité d'intervention dans le destin des vivants. On le trouverait, bien entendu, dans le cas de la mère du héros, dont vous vous souvenez que, après la disparition de sa propre mère, elle se met à lui ressembler. Et le narrateur en dit « Comme dans les familles royales et ducales, à la mort du chef, le fils prend son titre. Eh bien, dans cette famille bourgeoise, ainsi souvent, par un avènement d'un autre ordre et de plus profonde origine, le mort saisit le vif, qui devient son successeur ressemblant, le continuateur de sa vie interrompue. C'est dans ce sens-là qu'on peut dire que la mort n'est pas inutile, que le mort continue à agir sur nous. Chez tous les personnages essentiels, il y a cette même insistance sur la continuité et, suivant cette phrase que je retrouvais d'Auguste Comte la semaine passée, « Les morts gouvernent les vivants ». Enfin, on pourrait évoquer ce beau passage, déjà évoqué, mentionné par l'un de nos conférenciers, la conversation avec le grand philosophe norvégien dans « Sodome et Gomorre », là où Proust évoque ces souvenirs dont nous ne nous souvenons pas, puisqu'il y a tant de souvenirs dont nous ne nous souvenons pas, dit le grand philosophe norvégien, et avec lui le narrateur, pourquoi alors s'arrêter à 30 années? Pourquoi ne pas prolonger jusqu'au-delà de la naissance de cette vie antérieure? Si je puis avoir en moi et autour de moi tant de souvenirs dont je ne me souviens pas, cet oubli peut porter sur une vie que j'ai vécue dans le corps d'un autre homme, même sur une autre planète. Vous le voyez, cette mémoire comme personne, elle embrasse d'autres vies. Eh bien, si vous voulez, terminons sur cette image, c'est toute la littérature qui vit dans la recherche du temps perdu. C'est toute la littérature dont la recherche du temps perdu et la mémoire. C'est bien une vision de la littérature à la Michelet, de la littérature qui donne vie à la littérature, suivant cette formule de résurrection de la vie intégrale. Et concluons, ce seront nos derniers mots, avec les derniers mots de cette préface de Michelet de son Histoire de France, préface de 1869, texte que Proust connaissait, qu'il cite dans sa correspondance. « Eh bien, dit Michelet, ma grande France, s'il a fallu pour retrouver ta vie qu'un homme se donna, passa et repassa tant de fois le fleuve des morts, il s'en console, te remercie encore, et son plus grand chagrin, c'est qu'il faut te quitter ici. » Merci.